Pierre Picard, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'Occident n'est plus le maître du monde et il le sait. Mais est-ce une raison pour avoir peur de la Chine?
Alors, on a toujours des bonnes raisons et des mauvaises raisons d'avoir peur d'un pays, ou notamment lorsque l'on parle de la Chine, qui est une grande puissance économique et financière maintenant, en tout cas à ce jour la deuxième puissance économique mondiale, d'autant plus qu'elle se développe tellement rapidement que même les Chinois eux-mêmes n'en reviennent pas. Ils n'auraient jamais imaginé le développement de la Chine il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans ou encore moins 20 ans. Et on a raison à la fois d'avoir peur parce que oui, il faut s'interroger sur les inconnus, sur les perspectives et les prospectives des grandes puissances, ainsi que sur leur politique intérieure et extérieure. Et en même temps, je dirais que la roue du monde et le monde tournent, la planète tourne, et il ne faut pas s'affoler pour autant, car bien avant les États-Unis, ce fut la Grande-Bretagne, ce fut l'Espagne, ce fut l'Empire romain, bref, les civilisations et les mondes changent. Et bien évidemment, nous assistons aujourd'hui à ce changement hein, de cap où l'économie mondiale se déplace de l'Ouest à l'Est et donc de l'Occident à l'Orient. Et même si demain, l'Europe et l'Amérique jouent encore une place importante, aujourd'hui, une grande partie, en tout cas, de l'économie mondiale se joue en Asie et notamment en Chine.
Quelles sont les origines de l'APL, l'Armée populaire de libération?
Alors, l'APL, c'est une grande histoire et son origine, elle puise ses sources dans l'armée rouge chinoise, c'est-à-dire en fait les près de 5 millions de soldats qui étaient pour la plupart d'ailleurs des paysans, qui formaient la grande armée qui a suivi Mao Zedong, qui a donc connu cette longue marche et ces périodes de retraite. Et puis, on sait très bien que très peu de ces soldats survécurent à la longue marche de cette armée rouge. Néanmoins, c'est celle qui a permis à Mao de remporter la victoire et notamment de créer ce qu'est aujourd'hui la nouvelle Chine, même si elle a bien changé depuis, lorsqu'a été créée la République populaire de Chine en 1949.
Alors, titré sur la menace militaire chinoise revient à nous rappeler le fameux péril jaune qui fit tant peur à nos ancêtres à la fin du 19e siècle.
Oui, c'est un petit peu cela, mais c'est en même temps signalé, en tout cas de la part de mon éditeur, peut-être un titre un peu accrocheur, mais de signaler qu'aujourd'hui, la Chine n'est plus uniquement une grande puissance économique et financière. Ce n'est pas uniquement qu'un immense pays qui a la plus grande population du monde. Ce n'est pas uniquement un pays qui a 5000 ans, voire plus, de culture ancestrale, c'est également une grande puissance militaire qui a déjà été une puissance remarquable de par le passé, mais qui a été anéantie au siècle dernier. Et des bateaux, des avions, des technologies militaires chinoises, il ne restait pratiquement plus rien lorsque Mao est arrivé au pouvoir. C'était une armée qui n'était même pas une armée de métier, qui n'était pas spécialisée, il n'y avait pas d'avions, il n'y avait pas de bateaux. Voilà, donc il a fallu tout reconstruire, et notamment grâce au départ, avant que la Chine se fâche avec l'ex-URSS, grâce aux technologies et au matériel qui étaient importés de l'ex-Union soviétique. Mais maintenant, on peut dire effectivement, oui, en l'espace de quelques dizaines d'années, la Chine s'est modernisée, a modernisé son armée. Il faut dire aussi qu'à l'époque, dès Deng Xiaoping, il y a eu des très grandes coupes dans les effectifs militaires chinois parce qu'il s'agissait de rationaliser l'armée et puis de transformer cette armée du peuple, qui reste une armée d'ailleurs très prisée par les Chinois, elle reste une armée du peuple au service du peuple, mais elle se professionnalise un petit peu à l'image des armées occidentales ou américaines, même si on ne peut pas dire qu'elles se ressemblent exactement, et nous verrons pourquoi plus tard.
En quoi le nationalisme chinois pourrait être dangereux pour la planète, alors que Pékin réaffirme son envie de construire un monde pacifique?
Alors il est vrai que les Chinois, d'une façon générale, et surtout parmi les plus jeunes, sont assez fiers, hein, donc ils sont patriotes, ils sont fiers de la mère patrie, d'autant plus depuis que la Chine est considérée finalement comme réunifiée autour d'une même entité politique, et surtout que cette Chine réussit. Donc oui, on peut parler de nationalisme ou de patriotisme dans la mesure où la Chine est bien une grande nation, donc cela n'est pas exagéré pour la Chine comme pour d'autres pays. Cependant, il faut considérer que les Chinois, en dehors de leur zone régionale, comme ils ont pu se batailler un petit peu avec les Mongols, plus près de nous maintenant avec le Vietnam, ne sont pas des guerriers par nature. Les Chinois, en fait, absorbent par capillarité leur ennemi ou les autres personnes, mais ce n'est pas par nature un peuple bagarreur, dans le sens où n'aime pas faire des conquêtes à l'extérieur de son territoire. Donc, il y a cette fierté d'une Chine retrouvée. Il y a la volonté de défendre ses frontières, bien évidemment. Il y a la fierté de conquérir la Lune avec le lapin jade, on le voit actuellement. Mais il n'y a pas cette volonté d'hégémonisme, comme on peut le constater notamment par rapport à la politique qu'ont pu avoir bon nombre de pays européens, encore aujourd'hui d'ailleurs, y compris les États-Unis. Et dans la diplomatie, on remarque cette constance au niveau de l'histoire, y compris actuellement, où la Chine dit surtout, nous, ce que l'on ne veut pas faire, c'est suivre le modèle américain et donc intervenir au-delà de notre petite zone régionale.
Alors, il est clair que dans le monde d'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas la même conception du monde que les Chinois. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un point sur ces deux manières de concevoir l'avenir ?
Oui, ben vous savez, il y a la doctrine de Monroe qui en fait a guidé plus ou moins, ou sinon même pas plus ou moins, qui a guidé, je dirais, la politique extérieure américaine. Je crois qu'en clair, on peut dire que d'une part, pour les États-Unis, et c'est pas leur faire offense, je pense que les Américains nous diraient à peu près la même chose s'ils étaient avec nous autour d'une table, soit on est avec nous, soit on est contre nous. C'est quand même une vue assez particulière. Et si on est avec eux, j'allais faire un lapsus, j'allais dire les Chinois, si on est donc avec les Américains, on a plus ou moins le statut de vassal. Parce que les Américains se considèrent et veulent être la plus grande puissance du monde. Donc, cette politique de l'hégémonisme a permis au niveau financier, au niveau monétaire, au niveau de la communication, comme au niveau du dollar d'ailleurs, de dominer le monde. Aujourd'hui, cette politique est remise en question. Pourquoi ? Parce que l'économie américaine va un petit peu moins bien. Mais du côté de la Chine, c'est une vision différente. La Chine souhaite plutôt des partenariats économiques. Elle souhaite l'ouverture, elle souhaite travailler avec les États-Unis. Alors, bien évidemment, certains détracteurs pourraient dire « Oui, mais tout cela est bien intéressé. » Oui, oui, bien sûr. Tous les pays sont intéressés par leur politique économique extérieure. Mais on n'a pas cette vision de vouloir à tout prix imposer par la force sa politique. Les Chinois ont plutôt, je dirais, une vision d'englobement, un petit peu comme on le fait aisément avec les pions du jeu de Go, occuper des territoires d'une façon plus ou moins pacifique, lier des partenariats et avancer comme cela. La stratégie américaine est une stratégie beaucoup plus guerrière, beaucoup plus frontalière, que la position chinoise qui vise finalement à se développer sur la planète à pas de géant, mais d'une façon finalement qui est quand même pacifique.
Alors en 2013, la Russie s'est engagée à vendre 24 avions de chasse et 4 sous-marins à la Chine. Alors les Chinois alliés des Russes contre l'Occident, c'est aussi une manière d'envisager les choses?
Ce qui est clair, c'est que du côté des Occidentaux et de nos alliés américains, en tout cas tels que la politique et la géopolitique actuelle est dessinée en Europe et pour la France actuellement, il est sûr que la Russie et la Chine ne partagent pas les mêmes points de vue sur certains dossiers sensibles. Alors, j'en prendrai deux hein, pour ne citer que ceci, notamment la Syrie et l'Iran. Et on voit bien que bon nombre de ces pays qui sont la cible notamment de certains pays occidentaux et qui ne sont pas pour autant des démocraties ou des modèles de droits de l'homme, sont en même temps des pays stratégiques fournisseurs de gaz ou de pétrole. Et que, on l'a bien vu par rapport aux guerres en Irak, par rapport aux interventions en Libye, ce ne sont pas n'importe quel pays qui sont actuellement déstabilisés dans le monde. Donc, tout cela pour dire que la Chine et la Russie ne sont pas dupes des stratégies qui ne sont pas les leurs, d'autant plus qu'elles ont par exemple des intérêts dans la région, en Syrie et en Iran, et que de par ce fait, elles défendent des positions qui sont différentes. Et bien évidemment, du coup, elles se trouvent, je dirais, parfois unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies notamment, pour défendre des positions fermes. Par exemple, n'oublions pas que la Chine a déclaré à l'époque du président Hu Jintao, c'est pas si vieux, que si on touche à l'Iran, en fait c'est un avertissement qui a été fait aux États-Unis au cas où Israël attaquerait l'Iran, eh bien les Chinois ont carrément dit « vous déclencherez la Troisième Guerre mondiale ». Lorsque les Américains ont voulu, et les Français notamment, toucher à la Syrie, on a vu comment le président Vladimir Poutine a, habilement d'ailleurs, au niveau de sa diplomatie, stoppé le jeu. Donc on voit bien qu'il y a, il y a pas forcément un accord entre la diplomatie chinoise et la diplomatie soviétique, mais il y a effectivement des intérêts communs par rapport à ce que les deux pays considèrent comme étant des positions hégémoniques de certains pays occidentaux. Et donc, dans ces cas de figure, les diplomaties peuvent, s'allier pour lutter contre des décisions, d'intervention ou des positions d'intervention planétaire qui sont à la fois contre leurs intérêts et en même temps contre leur stratégie planétaire.
Alors vous avez employé le mot soviétique parce que vous pensiez évidemment à la Russie d'avant la guerre froide.
Oui, c'est vrai, c'est un lapsus révélateur. Bon, je ne crois pas que Vladimir Poutine souhaite recréer le même ensemble et territoire que l'URSS. Néanmoins, il y a quand même cette idée de refonder la nation russe qui est très présente actuellement. Oui, les Russes aujourd'hui veulent montrer qu'ils sont également une grande puissance. Ouais.
Alors le budget militaire chinois ne cesse d'augmenter depuis les années 2000, où il a quadruplé, et on annonce 180 milliards d'euros en 2015. Alors pourquoi la Chine dépense-t-elle tant d'argent pour son armée?
Alors d'abord, la Chine dépense beaucoup d'argent pour son armée parce qu'elle était très en retard. Alors effectivement, je vois ici et là des cris d'orfraie ou d'effroi en disant « Oh là là, le budget militaire chinois est en retard ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie du budget militaire chinois, bien sûr, il y a les armements stratégiques, il y a les missiles, il y a l'aviation, la marine, tout ça, ça coûte très cher. Mais c'est d'abord et tout simplement rattraper une partie de l'inflation, c'est-à-dire s'occuper de donner des soldes décentes aux centaines de milliers et aux millions de soldats qui forment l'armée rouge et puis je dirais l'administration, ses dépendances. Donc il y a d'abord une grande partie du budget qui est là pour donner des soldes qui seront meilleurs, puisque les soldats gagnaient trois fois rien. Ensuite, eh ben, il faut les vêtir, il faut les nourrir, il y a aussi des problèmes de logistique, de bâtiments. Et puis, il faut moderniser quand même l'armement, il faut construire des sous-marins. Donc, et puis, il y a l'inflation chinoise. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'étonner que la Chine, qui, d'une part, est une grande puissance économique mondiale, souhaite avoir une armée qui corresponde à sa puissance économique. Et puis, d'autre part, à ce qu'elle ait un budget qui soit conforme à une armée modernisée, donc, où ses soldats seront... peut-être pas beaucoup payé, mais normalement rémunéré.
Surtout que des soldats, il y en a 2,25 millions quand même. Alors, Xi Jinping attache beaucoup d'importance au développement de l'armée populaire de libération et il a promis à son peuple le rêve d'or en référence à l'American Dream. Alors, comment va-t-il s'y prendre ?
Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'avec le changement de cap de Hu Jintao à Xi Jinping, on a un nouveau slogan. C'est un peu comme si le président nouvellement élu de la République populaire de Chine montrait le cap aux Chinois pour les 5 ou 10 années à venir. Autrement dit, on a fait beaucoup d'efforts. Il en reste encore beaucoup à réaliser au niveau des réformes. Il faut libéraliser l'économie. Il faut également que la nation chinoise devienne une grande nation au niveau international. Mais il y a également de multiples fléaux dont il faut s'occuper, c'est-à-dire l'environnement, promouvoir l'équité sociale, le droit et la justice pour tous. Donc voilà, globalement, et notamment avec le dernier troisième plénum du Parti communiste chinois, le président chinois a ouvert un grand chantier de réforme. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la nouvelle équipe au pouvoir, que ce soit le président, que ce soit le premier ministre ou les ministres importants, ont tous vécu de près, d'assez près, et ont subi la révolution culturelle. Certains ont eu leur famille détruite, d'autres ont été, comme le président ou le premier ministre actuel, envoyés dans des camps de rééducation ou dans les champs. Donc ils ont une conscience beaucoup plus importante de la réalité et de ce qu'attend le peuple chinois. De plus, c'est une génération qui a l'avantage d'être instruite, qui parle pour la plupart des membres couramment l'anglais, donc qui sont habitués aux méthodes de management modernes. Donc on a là affaire véritablement à une nouvelle classe de dirigeants qui s'est rendu compte que il fallait maintenant taper fort pour éviter, peut-être des troubles sociaux. En tout cas, il fallait absolument modifier les fondements et les lois en Chine pour que le peuple chinois vive mieux. Donc, le slogan, oui, on va construire d'ici 2020, on va doubler le pouvoir d'achat, on va améliorer la réglementation sociale, l'équité devant les tribunaux, réformer complètement le droit de territoire du Hukou, diminuer considérablement les cas où la peine de mort sera encourue. Donc on voit bien que la Chine engage un chantier de réforme gigantesque qui pourra d'ailleurs peut-être être comparé au chantier des réformes qu'avait initié Deng Xiaoping à son époque.
De quelles nouvelles armes dispose la Chine qui pourrait déstabiliser les Américains ?
Alors, le point fort des Chinois, mais d'ailleurs je pense comme des Russes ou d'autres nations qui se sont démarquées des systèmes, je dirais, de la logique occidentale. Si vous permettez, auparavant, je dirais une chose. Lorsque l'on demande à un militaire chinois si en cas de conflit mondial, il emploierait des techniques chinoises, je dirais militaires, hein, ou occidentales, eh bien la réponse c'est non. En fait, il n'y a pas de règle. Je crois que les Chinois emploieraient à la fois des stratégies occidentales, des stratégies chinoises, de l'art de la guerre, voire des, comment dire, des stratégies de cyberguerre, comme d'ailleurs le feraient d'ailleurs d'autres pays, pour utiliser les points faibles de l'adversaire. Donc, ce que l'on a en dehors des stratégies menées par les uns et par les autres, les nouvelles armes chinoises, eh bien, on s'aperçoit d'abord que la Chine elle-même, on le voit aujourd'hui avec sa conquête spatiale, est capable de développer ses propres technologies, à savoir qu'elle dispose d'avions de combat, d'hélicoptères de combat, de drones de combat. Qui serait, d'après certains experts, ou en tout cas certains avis que j'ai eus, qui serait dans des phases d'expérimentation bien au-delà de ce que peuvent faire actuellement les Américains ou les Européens. Alors donc il faut être prudent quand on avance ce genre de choses, parce que c'est au niveau de la recherche, et puis en tout cas d'avis d'experts militaires, mais. Bon, tout cela reste secret finalement. Toujours est-il que les recherches en cours, que ce soit sur les chars, les avions de combat et toutes sortes de technologies qui sont liées aux militaires, sont vraiment d'avant-garde et les Chinois sont de nature à les développer eux-mêmes maintenant. Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'une armée, ça repose sur des hommes. Ça repose sur du matériel, mais ça repose également sur des technologies. Et on est en pleine révolution en matière de communication. Et là où est le point fort des Chinois, c'est qu'ils ont toujours refusé d'avoir le système global, qui s'appelle le système GPS, qui permet notamment aux navires et aux avions de communiquer, de se repérer. Et les Chinois ont développé leur propre système, qui s'appelle Beidou, Beidou 2, qui leur permet donc, je dirais, de sécuriser leurs opérations. Car au-delà de la langue chinoise, il leur fallait un système qui leur soit propre et qui ne dépende pas, je dirais, des technologies numériques américaines. Donc ça, c'est également un point très fort. Alors d'autant plus que si demain, il y avait une guerre, je dirais, de type asymétrique, c'est-à-dire que si les Chinois voulaient utiliser des points faibles dans l'hypothèse d'un conflit avec les États-Unis, eh bien évidemment, certainement que la stratégie chinoise pourrait notamment essayer de détruire, sinon en tout cas de modifier ou d'abîmer. Le système GPS américain, et donc de prendre l'avantage sur ce point-là, puisqu'elle a elle-même développé son propre système de communication, de guidage, avec son système Beidou.
Alors, la zone la plus chaude du moment se trouve en mer de Chine et plus particulièrement entre la Chine et le Japon.
Oui, alors c'est effectivement ce dont l'actualité nous parle. Et tout à l'heure, j'ai juste une remarque avant d'aborder ce point à rajouter, c'est que un des points forts de la Chine également au niveau de son armement, c'est sa capacité de défense nucléaire. Car bon nombre de pays ont des capacités pour ceux qui possèdent l'armement nucléaire. Ont la capacité de riposte nucléaire. Mais une capacité de riposte nucléaire, elle peut être détruite, y compris lorsqu'elle est enterrée dans des silos de béton. Alors que les Chinois ont des bases, je dirais, souterraines, enterrées dans des montagnes, ce sont des véritables tunnels, et donc la capacité de riposte de la Chine est aujourd'hui indestructible. Donc ça, c'est un point aussi également important. Alors c'est vrai que c'était la préoccupation à l'époque de Mao, de créer la bombe atomique, et puis d'avoir des missiles, et d'avoir des bases souterraines, mais aujourd'hui, ces technologies sont bien développées en Chine. Alors pour revenir au conflit en mer de Chine, il faut savoir d'abord une chose, c'est que ces conflits, finalement, sont relativement récents, puisque au cours des siècles derniers, on ne parlait pas tellement de droit de la mer. Il n'y avait pas vraiment de frontières. C'est principalement les Anglo-Saxons ou les Occidentaux qui ont amené ces notions de barrières et de frontières. Et il y a plusieurs conflits, effectivement, en mer de Chine, avec des zones qui se chevauchent, ou des îlots qui ne sont pas très importants au niveau de leur surface, sont néanmoins représentatifs. Pourquoi ? Parce que avoir un îlot dans une zone donnée, pour le Japon, ou pour la Corée, ou pour la Chine, c'est avoir plus de territoire, plus de ressources halieutiques, et éventuellement aussi plus de ressources en hydrocarbures. Bon. Ceci dit, il faut quand même être clair. Qui est dans cette histoire le plus, je dirais, on ne va pas parler d'honnêteté, parce que ce serait difficile à prouver, mais si on regarde le cas des îles Diaolu, qui s'appelle le conflit des îles Diaolu en chinois Senkaku, il s'agit quand même bien d'îles qui appartiennent à la Chine depuis l'Antiquité. Ces îles ont été signalées par des géographes français dans des écrits chinois, et puis bon, le Japon les a piquées comme à la suite de son intervention et de son invasion en Chine. Et le Japon n'a jamais voulu rendre ce qu'il avait pris. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que malgré les déclarations du Caire et de Potsdam en 1943 et en 1945, et donc suite à la défaite du Japon, qui d'ailleurs, de surcroît, s'était engagé à restituer les territoires qu'il avait pris aux autres pays, le Japon n'a jamais obtempéré, en tout cas sur certaines de ces questions. Donc aujourd'hui, oui, je crois que sans être partisan d'un côté ou de l'autre, les îles Diaolu ou Senkaku appartiennent plutôt... plutôt à la Chine, mais c'est peut-être aussi de la faute des Américains qui, pendant une partie de temps, après la Deuxième Guerre mondiale, ont gardé ces îles, certaines îles sous son giron, notamment on le voit avec les bases américaines à Okinawa, et ensuite on laissait faire, ou on laissait certaines îles se faire administrer par le Japon, alors qu'elles étaient sous tutelle et sous administration chinoise depuis la nuit des temps. Alors aujourd'hui, bien évidemment, la Chine qui, parce qu'à l'époque, elle était en pleine révolution, donc je dirais qu'elle ne pouvait pas tellement s'occuper de ces questions territoriales en dehors de ses frontières terrestres, mais la Chine a toujours revendiqué ses territoires, et il semblerait aujourd'hui qu'effectivement... elles devraient normalement, en tout cas, les récupérer. En tout cas, elles ne devraient pas être japonaises ou sous un autre statut.
Est-ce que Taïwan est encore une zone de tension pour les Chinois ?
Plus vraiment. Moi, j'ai toujours été, et ça me, votre question me fait remonter à mes premiers écrits sur ce sujet, il y a une quinzaine d'années, où je disais toujours... Ce sont des Chinois, les Taïwanais. Alors, bien sûr, à l'époque, on disait « Allez, les Américains ou les Taïwanais vont intervenir. » Pour moi, c'est une affaire chinoise, avec les Chinois de Taïwan, les Chinois de la Chine continentale. Les choses se sont beaucoup arrangées entre les Taïwanais et les Chinois de l'intérieur, on va dire. Bon, les Chinois, le gouvernement de Pékin souhaiterait amadouer encore davantage les Taïwanais, avec le fameux principe des systèmes politiques différents, même s'ils veulent la démocratie, qu'ils la gardent, et puis, mais nous ne formons qu'une seule grande Chine, ce sera un peu une forme de Québec du Canada chinois, je dirais. Mais bon, les relations s'améliorent considérablement entre les deux pays, pour des raisons simples, c'est que la Chine se libéralise, et puis les intérêts économiques entre les deux entités sont très très importantes. Alors je crois que les Chinois comptent sur le temps pour arriver finalement à peut-être faire une sorte de confédération chinoise, je ne sais pas comment les choses peuvent s'appeler, mais les Chinois ont le temps. Mais s'il y a un conflit à venir, il ne viendra pas du côté de Taïwan ou de la Chine.
Il pourrait peut-être venir des Américains.
Il pourrait éventuellement venir les Américains, mais là encore, la puissance militaire chinoise est telle, ce serait certainement suicidaire de la part des Américains de toucher à ce genre de choses. Et d'autant plus que le gouvernement taïwanais entretient de très bonnes relations maintenant avec le gouvernement de Pékin.
Alors, à ceux qui croient que les Français sont les rois de la vente d'armes, vous précisez que les États-Unis sont en tête avec 30% et que la Chine à 4% est derrière la France, qui elle-même est à 7%. est loin la Russie à 26%. La Russie est bien loin devant la France et la Chine. Mais en matière d'armes, la Chine est très concurrentielle puisque là comme ailleurs, elle est beaucoup moins chère.
Oui, la Chine est moins chère et bon, on le voit bien, la Chine n'est pas uniquement capable de faire ce que l'on savait auparavant, c'est-à-dire des chemises, des cravates, des pantalons, mais après des automobiles, bientôt des porte-avions et des technologies militaires qu'elle importait auparavant. Donc la Chine aujourd'hui est en mesure de fabriquer des armes et d'ailleurs à ce propos, on ne comprend pas pourquoi. Il y a toujours un embargo des armes de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, puisque quand même, beaucoup d'eau a coulé depuis l'époque de Tiananmen, et on peut considérer que, bon, le maintien de l'embargo est un prétexte. Alors c'est vrai que c'est pas facile de lever cet embargo, parce qu'il suffit qu'un seul pays décide de le maintenir, et donc par rapport à la prise de position de l'époque, on ne peut pas bouger les choses. Toujours est-il que cet embargo n'a pas empêché, cet embargo de vente d'armes à la Chine, n'a pas empêché la Chine de se développer, d'être une grande puissance économique et militaire. La seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi maintient-on cet embargo ? Alors la Chine a bien évidemment envie, pour l'honneur, que l'on lève cet embargo, mais elle n'a pas besoin des armes européenne. C'est plutôt les Européens dont les industries d'armement sont bien malades qui pourraient trouver un intérêt à lever l'embargo vis-à-vis de la Chine, comme l'industrie automobile française aurait un intérêt à ce que l'embargo sur l'Iran soit levé, notamment pour, je pense, à PSA. Toujours est-il que la Chine, oui, est en mesure aujourd'hui de s'armer, de vendre de l'armement. Et elle est également en mesure aussi de proposer dans certains domaines, pas dans tous encore, mais des technologies de pointe absolument performantes. Alors je parlais tout à l'heure des avions de combat, mais également des drones ou de la robotique, où ils sont absolument très en avance.
Et Snowden dans tout ça, il sert les intérêts chinois et russes contre l'Occident ?
Alors Snowden, c'est le fameux lanceur d'alerte hein, qui finalement sensibilise la population mondiale à ce que tout le monde savait déjà. On a bien vu que Edward Snowden a été le révélateur d'une pratique, mais que l'on connaissait déjà plus ou moins tous à travers des reportages qui était bien fait, très exhaustif, et des enquêtes qui parlaient déjà des programmes de collaboration entre les Britanniques, je pense à Echelon, avec les États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que aujourd'hui, le citoyen lambda dont nous faisons partie, et d'ailleurs qu'il soit chinois, russe, américain, français ou autre, sait globalement que maintenant, bon, voilà. Qu'il utilise sa carte internet, sa carte bleue, ses emails, voilà. Bon, tout. En fait, on est dans le domaine public. Et c'est justement d'ailleurs la faiblesse des Européens par rapport aux technologies américaines. C'est-à-dire, dans la mesure où elles n'ont pas pu développer leur propre système, mais qu'elles travaillent avec Apple, avec Windows, qui sont d'ailleurs des beaux produits, hein, on ne peut pas le contester. Toujours est-il que, voilà, quoi, il est quand même difficile de lutter contre cet espionnage. Donc, ces révélations ont été utiles parce qu'elles permettent aux gens, finalement, y compris aux entreprises, de faire attention, notamment en matière d'intelligence économique, de mieux se protéger. Mais, bon, en même temps, il faut bien voir que les choses ne devraient pas changer. En tout cas, c'est la raison pour laquelle les Russes comme les Chinois développent leur propre système de Facebook, leur propre système, je dirais, de moteur de recherche, parce qu'elles ne veulent pas justement appartenir au précaré américain dans ce domaine.
Et l'indépendance, c'est la garantie d'une sécurité.
Oui, absolument. En matière de communication, comme de médias, transfert de données, il est sûr que... avoir cette sécurité que n'ont pas les Européens, c'est un des enjeux majeurs pour les Russes comme pour les Chinois.
Pierre Picard, merci.